le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
On fait tout cela parce qu'on défend l'agriculture de type capitaliste.
C'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Aujourd'hui, dans l'émission Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes, un nouveau reportage sur la situation en Amérique latine, précisément dans ce que l'on nomme la Pampa déprimée en Argentine. Cette région, connue internationalement pour avoir été le centre d'une production de masse de viande de bœuf au cours du XXe siècle, est en pleine restructuration. Si l'on dit qu'elle est déprimée, c'est avant tout sur le plan tectonique. Depuis les sommets de la cordillère des Andes, s'étend un vaste plateau qui s'épanche jusqu'à la plongée à l'est dans l'océan Atlantique, si bien qu'à 200 ou 300 km de la côte, les terres constituent des bas-fonds humides sur lesquels il n'est pas trop possible de remettre en cause la vocation d'élevage de ce territoire, alors que plus en amont, dans l'intérieur du pays, c'est la monoculture du soja et du maïs transgénique qui s'est progressivement imposée face à l'élevage extensif. Pour autant, le territoire pampéen, autour du bourg rural d'Ayacucho, n'échappe pas à la mainmise des firmes financières sur l'organisation de la production, laissant dans les fossés de la mondialisation les formes de production traditionnelles et familiales qui sont héritées des premières implantations agricoles européennes d'il y a 2 siècles. Mais c'est dans ce contexte que les jeunes que nous allons rencontrer ici se motivent pour proposer et construire d'autres perspectives tant sur le plan du social, de l'habitat, que des activités qui peuvent peu à peu recréer de la vie et de la solidarité face au rouleau compresseur de l'industrialisme agricole et de l'impasse dans lequel il nous conduit partout sur la planète. Parmi nos deux interlocuteurs se trouve d'abord Rohan, un jeune qui participe à la municipalité d'Ayacucho, en y proposant des projets pour lutter contre l'adversité. Rohan est lui-même le fils d'un éleveur de bœuf de la région d'Ayacucho. Nous entendrons ensuite Sophie, une jeune Française partie étudier les mécanismes de transformation foncier qui s'opèrent actuellement dans la Pampa argentine. Tous deux militent pour que les habitants paupérisés se prennent en main et construisent leur maison à partir de la principale ressource locale écologique qui est la terre. La première partie de ce reportage s'articule autour d'une présentation historique et socio-économique de cette Pampa argentine. Et dans un second temps, viendront des explications sur comment, dans ce contexte, des jeunes se motivent pour revenir à la terre et venir proposer d'autres formes d'organisation sociale que la résignation au système capitaliste. Écoutons d'abord Rohan nous présenter cette Pampa.
La Pampa est une région immense ici en Argentine. Ce sont de grandes plaines horizontales, il y a beaucoup d'herbes, avec un sol propice pour l'agriculture, les mines, la pêche. Et quand sont arrivés les Européens en 1492, cette Pampa commence à changer. Un processus évolutif est organisé. Planifié par la nécessité du capitalisme. L'histoire commence pour la Pampa avec l'arrivée du cheval et de la vache qui sont amenés d'Europe. Et cette importation modifie le mode de vie qu'ont les habitants natifs de la région. Ils étaient assez peu. Il y avait en effet une faible population à cause des conditions naturelles de cette pampa, qui n'offrait en fait pas vraiment une grande diversité de nourriture pour les chasseurs-cueilleurs. Il y avait des chasseurs-cueilleurs, mais c'était des communautés très réduites, avec un mode de vie adapté à leur environnement. Ensuite, tous les habitants ont connu le cheval et la vache, et le processus de valorisation a commencé. Celui des Européens, bien sûr, et du capital, ici dans la Pampa. Ça devient la conquête d'un désert, c'est-à-dire en fait une vraie occupation, un choix sélectif des terres qui pourrait produire de nouveaux aliments pour le marché. Et ils ont rasé en quelque sorte la population native pour commencer ce processus d'insertion de la Pampa dans le grand marché international. Et ça se termine par le génocide culturel des populations natives. Et dans les années 1860, on impose le premier modèle économique national, appelé le modèle d'exportation. On instaure Buenos Aires comme capitale et comme centre du commerce. Ensuite vient la période des migrations, qui est un processus pour repeupler, d'Européens bien sûr. Les grandes migrations ont lieu entre les années 1860 et 1890. Arrive alors un objet importé des Britanniques, le chemin de fer, avec les banques privées anglaises, et ils commencent à instrumentaliser et à installer sur le territoire les dispositifs nécessaires pour que les produits qu'ils commencent à produire sur le territoire national dans la Pampa soient destinés à l'exportation. Et là, l'Argentine, avec ce modèle exportateur, devient dépendante. L'arrivée des capitaux étrangers et les financements internationaux amènent les dettes internationales. L'histoire mondiale s'écrit ainsi avec l'Argentine, connue alors comme grande éleveuse, comme fournisseuse de vaches et de moissons d'Amérique. La distribution de la terre dans la Pampa, comme tout le système national, a été calamiteux et a conditionné la formation d'un État national dont le premier objectif était la productivité et où la terre se retrouvait entre quelques mains seulement. Tout ça directement organisé par l'État et le marché. Des parcelles immenses vont basculer dans les mains de propriétaires terriens. Ils vont se succéder les uns les autres. Et le système ne va faire que concentrer la terre entre les mains de quelques-uns. La crise internationale sur la scène mondiale est une crise du capitalisme. L'Argentine, par son positionnement exportateur avec l'hémisphère nord, se transforme en pourvoyeuse d'aliments. Et la crise de la Première Guerre mondiale va déboucher sur une rupture avec ce modèle exportateur pour se transformer en un processus économique appelé importation de substitution ou substitut à l'industrialisation. Et jusqu'à une nouvelle crise internationale en 1929, l'année de l'effondrement de la bourse à Wall Street. Un autre événement international provoque un changement de régime politique national et le début du processus d'industrialisation, d'importation, de substitution, hérité ni plus ni moins de la Première Guerre mondiale, comme on vient de le dire. C'est le processus latino-américain qui s'ensuit vers le socialisme et qui est synonyme de défense des ressources naturelles. Et puis le pays se détermine par une posture qui ne s'aligne pas au reste du monde. L'Argentine avait pas mal de liens avec les ligues africaines, socialistes ou de gauche. Ce processus d'industrialisation de l'agriculture consolide une nouvelle pratique paysanne qui n'existait pas dans la Pampa, sur ces terres. Et entre les années 40 et 60, il y a eu un processus qui s'est intensifié avec l'arrivée de la Révolution verte, avec une nouvelle diversité d'agriculteurs. C'est-à-dire que malgré la problématique de la répartition des terres et sa concentration, il y a eu aussi un accès à la terre pour les travailleurs ruraux. Il y a eu dans ce sens une politique nationale. Ce sont les premiers et le deuxième plan quinquennaux. Ça a permis de faire naître de nouveaux acteurs, mais qui par la suite se sont retrouvés victimes.
Sophie prend ici la parole pour préciser un peu ce que la rhétorique de Rohan a laissé dans le flou en ce qui concerne les aspects de l'organisation sociale des producteurs de bœuf pampéen. Et après cela, Rohan reprend son exposé historique et revient sur les restructurations néolibérales des dernières décennies.
On a une pampa au début, comme il disait, qui était perçue comme un désert en fait, enfin, par les Européens et par les Argentins. Un désert parce que c'était des grands pâturages, des chevaux et des vaches qui s'étaient évadées et qui est progressivement colonisée en fait et qui est découpée en grandes exploitations. Des grandes exploitations qui pratiquent l'élevage. Dès la fin du 19e siècle, pour améliorer l'élevage, les grands exploitants, là, les grands terratenientes, font appel en fait à des migrants pour venir travailler des terres dans les grandes exploitations. Et en fait, du coup, arrivent des milliers de migrants européens, syrio-libanais, et ils viennent louer un lopin de terre avec leur famille, et ils produisent en fait de la luzerne et du blé, et ensuite ils rendent les terres aux terratenientes. Mais du coup, on est sur une classe d'agriculteurs qui est à la base locataire, et qui est soumis en fait aux conditions que leur imposent les grands propriétaires fonciers. Se forme là la première organisation de producteurs, qui est la Fédération Agraire en Argentine, qui défend cette classe de producteurs qui s'identifie comme des chacareros. Et après la crise de 1929, où le modèle finalement de l'exportation rentre en crise, se développe, l'État décide de rappuyer finalement l'agriculture, de restimuler l'agriculture, et avec Perón, des mesures sont mises en place pour permettre à ces chacareros de devenir propriétaires. Et du coup, effectivement, il y a eu une politique d'accès aux fonciers, avec la possibilité pour les producteurs locataires de devenir propriétaires, et des colonies agricoles. Et on passe du coup d'une figure de producteur locataire qui loue à des grandes propriétés à la première fois dans l'histoire de l'Argentine à une frange de producteurs qui combine finalement le travail agricole, la propriété sur des exploitations où ils vivent. La figure un peu de cette politique, c'était Perón qui était général et qui est devenu ensuite président. Et du coup, tout ça ouais, dans les années 50 et qui était un slogan aussi la terre acquis la travail. Et en fait, il y a eu, deux origines de ces exploitations, de ces grosses exploitations agricoles aujourd'hui en Pampa. Donc, du coup, ces chacareros adoptent progressivement ce mécanisme, ont la possibilité d'acheter des terres, louent des terres et forment des grosses entreprises. Enfin, progressivement arrive un schéma de former des entreprises, des grosses entreprises récapitalisées. Et il y a aussi des propriétaires fonciers qui, de peur en fait de perdre leurs terres, puisque Perón menaçait de leur enlever leurs terres, décident de faire également de travailler eux-mêmes leurs terres ou avec des prestataires de services. Et en fait, on arrive quand même à une figure, on va dire dans les années 80, qui était un peu la figure de la modernisation agricole dans la région pampéenne, qui étaient des exploitations mixtes, qui combinaient agriculture et élevage, d'entre 200 et 600 hectares, des agriculteurs qui sont déjà mécanisés, et qui sont également prestataires de services pour des propriétaires qui ne réalisent pas le travail agricole dans les terres. Donc avant l'arrivée de l'agriculture, du modèle de firme dans lequel on est aujourd'hui, il y a eu cette classe de producteurs devenus propriétaires qui ont réussi à former des grandes entreprises familiales qui peuvent semer jusqu'à 2000 hectares, donc ils peuvent avoir 600 hectares en propriété et louer 1400 hectares. Et faire de la prestation de services, de l'élevage. Et c'est un peu la figure qui reste aujourd'hui dans les territoires.
À partir de 1980, on est dans un processus mondial nouveau qui promeut une agriculture mondiale. La concurrence des années 70 et 80 entre les États-Unis et la communauté européenne concernant les politiques agricoles a donné lieu à une baisse internationale sur les prix des matières premières et le système national d'agriculture ne peut plus vivre sans le cercle vicieux de l'endettement, accompagné par le support physique d'outils de travail qui avait été inventé dans les années 60 et 70. Cette crise économique, on peut la résumer par une méga-inflation et l'avènement de la politique néolibérale en Amérique du Sud, juste après les dictatures militaires et les petites expériences démocratiques des années 83 à 89. Depuis 1989, le plan du FMI et de la Banque mondiale, connu comme le plan d'ajustement structurel, a disloqué l'État national pour en faire un État libéral. Et avec la venue de ce plan structurel, à partir d'une vision néolibérale, commence la mise en œuvre d'une politique agraire basée sur une nouvelle agriculture aidée par les biotechnologies. Ils ont pacifiquement transformé les matières premières riches et variées pour le monde, en s'aidant de kits d'agrotoxiques mondiaux pour pouvoir produire ce dont ils avaient besoin. En 1980, il y a le démantèlement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour en faire un simple secrétariat d'État. Et en plus de ça, ils détruisent et démolissent les politiques régionales et les coordinations publiques, celles du grain, de la viande, pour libéraliser le marché et la nouvelle agriculture qu'ils veulent imposer dans cette pampa. Avec ce processus, depuis la mise en place du système néolibéral en agriculture, on a vu l'augmentation internationale du prix du blé entre les années 1983 à 1987. Ce nouveau système agricole, cette nouvelle agriculture, est avalidé par le Congrès national en 1996 avec l'arrivée et l'ouverture à Monsanto pour qu'ils introduisent les glyphosates. Dans ce scénario, commence un processus de renouvellement des petits fermiers qui ne peuvent pas être compétitifs avec cette nouvelle agriculture dans ce commerce. Et l'insertion de l'Argentine dans le Mercosur, avec l'arrivée de produits du Brésil, issus de l'agriculture brésilienne, a détruit littéralement les petites exploitations et la petite paysannerie argentine. Au bout de 10 ans, de 1981 à 2001, en Argentine, il y a eu la disparition de plus de 30% des exploitations et une très forte concentration des terres. Mais aussi, la situation a amené à l'endettement des producteurs. Les petits producteurs ont disparu parce que leurs produits ne valaient plus rien. Et dans une autre région argentine, dans la plaine Chaqueña, il y a eu l'extension des frontières agricoles dans des zones à climat semi-aride et de montagne, avec des conditions qui ont amené à une désertification et au monopole du soja dans ces régions semi-arides pas du tout adaptées. Et ça a conduit à un génocide culturel concernant les populations natives de ces régions. Du côté de l'environnement, c'est complètement destructeur pour le futur du pays. Dans ce contexte, se consolident les dispositifs et la promotion que fait l'État pour le commerce, ainsi que certaines entreprises. Toute une série d'entreprises nationales et internationales qui vont prendre le contrôle de l'agriculture. Ce contrôle de l'agriculture par ces entreprises nationales et internationales va se concentrer au sein de quelques entreprises régionales, celles qui exercent la plus grande pression sur les terres. Ça provoque l'exclusion des petits producteurs locaux ou des producteurs qui travaillaient de façon traditionnelle. Et les bénéfices extraordinaires de l'agrobusiness mondial dans la Pampa, payés sous forme de droits de douane et de locations exorbitantes, a terminé d'exclure les producteurs traditionnels. Donc on n'a pas seulement perdu les petits producteurs, on a perdu toute une culture paysanne et traditionnelle qui existait là dans ces montagnes. Certains producteurs se sont rassemblés, mais ça a éclaté le modèle familial. Ça a transformé la Pampa. C'est maintenant une Pampa inhabitée, dont le paysage a changé et où les paysans sont marginalisés.
Ansias de raje y evasión postrera, al mismo tiempo de quedarte en casa. Tu vida es dura, por demás fulera, y a nadie importa lo que a vos te pasa. Hoy se te van pendientes de una espera los años de la vida que te pesa. Al suicidio consciente haces la pera, aguardando tal vez una sorpresa. Quizás en la oficina, sin darte cuenta de que ya estás harto, llevándote a la boca una aspirina, te piantarás del todo en un infarto.
On vient de s'écouter un petit tango du chanteur argentin Melingo. Et maintenant, Sophie revient sur la situation actuelle en Pampa, qui est directement héritée de la crise historique de 2001 en Argentine, et nous explique comment le monde de la finance met peu à peu la main sur la production pampéenne.
Aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le territoire, dans les régions agricoles, il y a un peu deux cas de figure, en fait. Il y a soit, effectivement, des familles de chacareros qui ont réussi à maintenir leurs terres, pas forcément en accédant à la propriété. Certaines familles peuvent posséder 100 hectares en propriété et louer 1000 hectares ou 2000, ou certaines arrivent aujourd'hui à louer 25 000 hectares. Du coup, donc, il y a encore des entreprises, ces entreprises familiales qui descendent directement des chacareros, qui maintiennent une activité agricole. Et effectivement, avec l'arrivée du modèle du semi-direct, des semences et donc toute cette agriculture de firme, arrive une autre figure, qui est un peu le pool de semis, donc des fonds fiduciaires, qui sont des entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, et qui captent en fait des investisseurs, qui peuvent être aussi bien des investisseurs nationaux et même locaux, ou des investisseurs internationaux, et qui mettent en fait, qui profitent, enfin, qui récupèrent cet argent-là pour pouvoir semer et faire la même chose qu'une entreprise familiale. Enfin, l'Argentine a connu en 2001, du coup, une crise économique historique, hein, puisque c'était la crise du système bancaire, la faillite de toutes les banques argentines. Et du coup, il y a une déconfiance vraiment dans le système bancaire et dans l'instabilité politique, ce qui fait que les Argentins ne placent plus leur argent en banque. Ça, ce contexte-là, il profite directement à ces figures-là, à ces fonds fiduciaires, à ces entreprises qui, du coup, capent d'épargne pour les mettre en culture. Et on arrive vraiment, du coup, sur ces figures qui sont assez emblématiques dans la région, de poules de semis, où il y a une personne qui gère un peu les relations avec les investisseurs, qui emploie localement un ingénieur agronome. L'ingénieur agronome et lui sont en charge de louer des terres à un propriétaire, à trouver des prestataires de services pour semer, récolter et pour vendre le grain. Et après une culture, rembourse en fait du coup les investisseurs avec un taux 15 à 20% sur leur épargne. Les trajectoires les plus courantes pour un fils de producteur, on va dire qu'il y avait beaucoup de producteurs qui avaient 100 ou 200 hectares en propriété, où les parents ont encore réussi à maintenir une activité en faisant ou non le travail, mais en maintenant en gérant l'exploitation. Et beaucoup d'enfants, mais déjà c'est un processus qui avait déjà commencé dès la mécanisation dans les années 50 et qui est devenu encore plus fort aujourd'hui. Mais les enfants partent et finalement deviennent eux prestataires de services. Ils peuvent faire le travail pour leurs parents ou non. On va dire avec le saut technologique qui a été fait avec l'arrivée du semi-direct, et l'arrivée des énormes moissonneuses-batteuses, des machines de plus en plus chères, ces prestataires de services sont ces enfants de Chacarero. Pour amortir les machines, sont quasi obligés de semer un grand volume de terre, enfin une grande superficie, et donc de travailler aussi avec des poules de semis. Donc effectivement, on arrive à un système, on passe vraiment d'un système intégré où le producteur contrôle. Fait au moins contrôle la production sur des terres, un système où il y a vraiment une segmentation entre le propriétaire, celui qui fait le travail agricole et celui qui gère un peu l'organisation du travail et de la vente de la production.
Alors il y a un fait qui peut paraître assez surprenant lorsqu'on arrive de France, c'est que la durée moyenne des contrats de location d'une parcelle de terre en Pampa dure seulement une année.
Ouais, aujourd'hui, les contrats de location, puisqu'on est du coup sur une agriculture de ce qu'on appelle une agriculture de contrat, vu qu'il y a des contrats pour la location, des contrats pour les prestataires de services. Et aujourd'hui, la majorité des contrats, c'est un système qui ont été imposés qui ont amené les entreprises et les poules de semis. C'est des contrats, ce qu'on appelle des contrats accidentels, des contrats d'une saison, d'une culture, enfin d'un cycle de culture. Ce qui amène au niveau de la terre et d'une insécurité pour les familles, parce qu'ils doivent effectivement renouveler les contrats chaque année et donc être en compétition avec des poules de semis. Et aussi, pour rentrer dans ces chiffres, à diminuer ses coûts de production et à être dans une agriculture très extractiviste, ça veut dire qu'ils vont tirer au maximum ce qu'ils peuvent de la terre qu'ils louent. Et la rendre, quitte à changer ensuite de terre.
Le moment est venu de nous pencher sur des réalités plus locales, autour du bourg dans lequel résident Juan et Sophie. Il s'agit de la ville d'Ayacucho. Sophie, puis Rohan, chacun à leur façon, vont nous présenter ce territoire et ses réalités sociales.
La Pampa, elle s'est colonisée avec le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le symbole de la colonisation de la région. Et les villes et les villages se construisent, sont rien d'autre que des stations de chemin de fer autour desquelles s'organise une petite bourgade. Mais les gens continuent à vivre dans le campo et viennent faire leur commerce, leurs courses, boire un coup au village. Puis après, il y a un deuxième passage là qui va avec le modèle de la modernisation où ces petits villages là disparaissent progressivement, commencent à disparaître. Mais après, c'était le coup de grâce dans les années 80. Et le modèle choisi, c'est celui de la ville, quoi, de l'agroville, tu vois, de là où se concentrent ensuite les silos, les entreprises, les lycées, l'éducation, le service, enfin tout ce que tu veux, et ce qui fait que tu arrives vraiment à au village et la campagne, c'est un lieu de production, plus un lieu de vie en fait. Tu passes à ça entre les années 50 et les années 80. Puis après, alors là, dans les années 90, t'arrives encore un autre délire qui est. T'as des investisseurs qui arrivent de Buenos Aires, là, j'imagine de Buenos Aires, qui viennent cultiver ces régions et qui ne vivent même plus dans les villes, quoi. Donc la pampa, elle est téléguidée depuis Buenos Aires, quoi. À Chacucho, on est dans une zone qui était traditionnellement la zone d'élevage. Pourquoi ? Parce que c'était des terres très basses, en fait, inondables, où du coup, le modèle d'agriculture qu'on t'a décrit avant, développement agricole et l'agriculturisation là, a été freiné par les mêmes conditions de la topologie de la région. Du coup, à Chacucho, c'est un peu une autre dynamique. C'était une région d'élevage avec des grandes exploitations terratenientes aussi, qui étaient à la base des éleveurs de moutons, ensuite qui se sont passés à devenir des éleveurs de vaches, et où un peu l'organisation sociale de la région, c'était plutôt la figure du gros propriétaire et du pion, du travailleur rural, qui était chargé de garder les animaux, et de vivre en fait sur l'exploitation. Les propriétaires ne vivaient pas sur l'exploitation.
Sur les zones maraîchères de la ville, c'est-à-dire dans la zone périurbaine, il n'y a pas de production, ni alternative, ni de petite échelle, ni horticole ou alimentaire pour le quotidien. Il y a 660 000 hectares, c'est le quart de la surface de la province de Buenos Aires. Ça fait 45 ans que la population reste stable et où 70% de la superficie est utilisée par des gens qui n'habitent pas à Ayacucho, c'est-à-dire que les terres et les ressources sont externalisées. Il y a quelques petits propriétaires terriens et éleveurs locaux qui ont du poids, mais la plupart des surfaces que possède la majorité des éleveurs font 800, 1000, 1300 hectares. Les petits, eux, ont entre 200 ou 300 hectares. Ces 15 dernières années, et surtout les toutes dernières, il y a eu une reconversion de l'élevage vers l'agriculture. Il y a environ 17 000 habitants en ville, à Ayacucho. Et à Orugal, qui est un quartier, il y en a environ 3 000. On observe une forte paupérisation de cette population, un délabrement des conditions de vie pour au moins la moitié des habitants d'Ayacucho. Il n'y a pas beaucoup de travail, il y a peu d'entreprises, et l'économie locale est complètement sous perfusion étatique. C'est à coup de subventions et d'aides publiques, gérées par l'État, les provinces et les communes, que vit une grande proportion de la population. Il y a une pression immobilière sur la terre. Il y a beaucoup de familles qui sont sans logement. Et il y a une population jeune, sans formation et sans perspective. Ils dépendent des aides sociales de l'État. Il y a beaucoup de jeunes foyers aussi, de jeunes qui, face au vide, remettent leurs espoirs dans la famille. Il y a une résurgence de filles-mères et de jeunes pères. Ces conditions de vie sont les conséquences claires de la politique de la Banque mondiale, ici à Ayacucho. Concentration de la terre, de l'agriculture, la crise et une population qui vit sous assistance. Cette assistance n'est ni plus ni moins que le bénéfice lié à l'exportation de la matière première qui leur appartient. Une assistance sociale qui est confrontée à un appauvrissement et à la perte de la richesse nationale. Face à cette situation, il y a quelque chose qui est clair. Il faut reprendre le processus de reconquête qu'a suivi l'Afrique du Sud entre les années 40 et 60. C'est-à-dire faire la même chose ici en Argentine. Il y a les conditions structurelles. La terre est concentrée à la merci des grandes corporations. La souveraineté alimentaire nationale est entre les mains du monde. Et il n'y a plus de semences. C'est une catastrophe alimentaire. Ou plutôt, c'est la possibilité d'une catastrophe alimentaire si le capitalisme continue comme ça. À Ayacucho, pour la mairie, il y a des possibilités. Quelles sont ces possibilités? Comprendre quelle est la logique de la résistance à ce capitalisme agraire et se positionner depuis le territoire, la juridiction, déterminer les politiques nécessaires pour ne pas permettre que ce capital perdure, mais lui opposer une agriculture familiale et supporter une agriculture propre, avec des possibilités de repeuplement et d'accès à la terre. Et pour faire ça, il est nécessaire de créer un fonds de promotion intensif. Les ressources nécessaires existent et il faut faire en sorte qu'elles soient à disposition pour favoriser le processus de renouvellement de notre agriculture familiale à petite échelle et que l'État puisse garantir les rêves des travailleurs ruraux qui sont pour l'instant soumis à leurs devoirs salariaux, sans terre, pour que puissent venir les familles, des jeunes qui voudraient se regrouper pour vivre sur un petit morceau de terre et produire pour vivre de façon agréable, en lien avec la nature. Alors maintenant, le débat nécessaire à Ayacucho concerne principalement la terre, et c'est un problème en fait qu'on retrouve partout en Amérique latine, donc en Argentine aussi. Ce problème, c'est que la terre se trouve concentrée. Alors s'il n'y a pas de politique pour la terre, s'il n'y a pas de politique d'accompagnement sur l'usage des semences, des OGM, et surtout des kits biotechnologiques, d'herbicides par exemple, d'insecticides. Voilà, ce sont deux axes politiques clairs pour marquer la dynamique locale et récupérer notre identité qui est d'élevage et toutes ses potentialités. Parce que l'élevage, sous une certaine forme, a été complètement détruite ici en Argentine. Alors c'est ça, c'est comment récupérer notre identité pour fonder un projet politique local sur un grand périmètre et avec une production sur une grande partie du territoire qui soit participatif. Récupérer l'organisation originaire et que les conditions de ce système agroalimentaire puissent le permettre grâce à un marché qui rendrait possible de manger de la viande élevée dans de bonnes conditions. Il faut voir le bon côté. Il y a celles et ceux qui commencent à se dire que le chemin de l'agriculture familiale peut être un mode de vie à choisir. Il y a déjà certaines personnes, familles, jeunes gens, qui commencent à connaître, à savoir que cette possibilité existe. Qu'être agriculteur peut être un progrès spirituel. On commence à prendre conscience qu'on peut vivre bien et sainement quand on a de la terre. Et de la terre, il y en a. L'agrobusiness ne pourra pas occuper tout l'espace. Alors aujourd'hui, la terre est là pour accueillir ces merveilleux paysans et paysannes. En Argentine, ça devient nécessaire pour pouvoir nourrir la population.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, roda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy,
del
del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
On vient d'écouter un autre morceau du chanteur Melingo. Sophie, dans ce qui suit, nous raconte comment elle et Rohan s'inscrivent dans une sorte de mouvement de retour des jeunes vers leur village, principalement par manque de perspectives dans les métropoles urbaines. Pour faire face au manque de logements, ils en sont venus à proposer à la municipalité d'appuyer des projets de construction de maisons d'habitation en terre, la matière première locale par excellence.
J'ai l'impression que... que moi j'ai d'à chaque coup de chose, c'est de voir finalement que beaucoup de jeunes étaient partis de leur village pour étudier en disant qu'il n'y avait aucune perspective. Depuis quelques années, on voit finalement que ces jeunes qui avaient quitté à chaque coup de chaud pour aller à Buenos Aires, Mar del Plata, des grosses villes de la province, se retrouvent un peu à... finalement avec un horizon encore plus limité dans la capitale, en fait, parce qu'il n'y a pas plus de boulot, l'air est pollué. Du coup, on voit un retour finalement de la jeunesse des trentenaires là, dans leur village, avec l'envie de refaire vivre le village et aussi de revenir à la terre. Donc de s'installer à la campagne, de faire revivre un peu la campagne. Enfin, le choix qu'on a fait, c'est d'aller construire dans un petit village à Ayacucho, parce qu'à Ayacucho, c'est la ville, et il y a quatre petits villages autour. Donc d'aller vivre dans un petit village de 50 habitants, où avant le démantèlement du chemin de fer, c'était un village super actif, en fait. Il y avait des coiffeurs, une épicerie, boulanger, un abattoir. Et en fait, le train arrêtait de passer. Ensuite, il n'y a jamais eu d'école, il n'y a pas eu de lycée. Enfin, du coup, les familles sont parties. Il n'y a pas d'électricité pendant un moment. Et du coup, les jeunes sont partis. Et du coup, on a fait un peu ce choix d'aller s'installer là-bas. Et aussi de travailler pour faire revivre le village. Pourquoi à la base, c'est que basiquement on n'a pas trouvé de terre en fait autour d'Ayacucho, puisque ce que disait Erwan, c'était aussi que peut-être contrairement à la France, c'est la ville est direct, bam, les grandes exploitations. Il n'y a pas une frange périurbaine avec des petites parcelles ou de la terre achetée, et quand bien même il y a des petits lots de terre, c'est un peu la course à la résidence, donc c'est la compétition finalement entre une frange périurbaine un peu agricole et le résidentiel. Et les axes sur lesquels on travaille, donc qui ont été finalement ça n'a jamais été imposé quelque chose finalement, ça a été proposer une alternative à des problèmes qu'il y avait dans la ville. Un des plus gros problèmes, comme disait Juan, c'est l'accès au logement. Il y a vraiment des conditions très précaires, beaucoup de familles sans logement ou dans des conditions vraiment précaires. Donc de proposer une alternative qui est construire en terre et construire soi-même sa maison, et donc du coup travailler avec la mairie pour que la mairie offre tout un dispositif pour accéder d'une part à un bout de terre pour construire, et puis d'accompagner sur tout le processus d'autoconstruction. Ça a été bien vu. Notamment après, on a la première maison qui a été construite. Voilà, c'était une maison, une maison de bonne qualité, confort, avec toutes les installations, l'électricité, la télé, carrelage, une salle de bain. Et voilà, les gens, une fois qu'ils ont vu ça, ça va, il n'y a pas eu trop de critiques. Et sur le deuxième point, qui était du coup l'accès au foncier, donc faciliter, donc la mairie municipalise des terres pour pouvoir en fait rediviser, redistribuer des terres aux familles qui souhaitent construire. Là, du coup, les blocages, c'est pas tant l'opinion publique, c'est plutôt blocage de certains propriétaires, ou en tout cas des gens qui usurpaient aussi ces terres. Donc c'est le collectif contre l'intérêt individuel.
Alors Sophie vient tout juste d'évoquer le fait que la municipalité d'Ayacucho municipalise des terres. C'est un phénomène assez surprenant, mais le processus en reste assez simple. Ils en sont venus à recenser les parcelles dont les propriétaires n'avaient pas réglé leurs impôts fonciers depuis plus de 50 ans. Et après un unique courrier de demande de régularisation, lorsque le propriétaire ne donnait aucun signe de vie, par décret, la municipalité d'Ayacucho opère à la municipalisation de ces parcelles. Cela permet de récupérer du terrain et de faire face à la demande de construction en logement. Si les familles qui sont dans les besoins décident de construire en terre crue, les matériaux sont alors offerts par la municipalité.
Sur comment ça a été possible aussi à Ayacucho, enfin au niveau de la mairie, ouais. Je pense qu'à la base déjà c'est parti d'avoir une élection avec un nouveau maire qui arrivait et qui était déjà ouvert au changement et disposé finalement à écouter en fait finalement ces jeunes là qui revenaient vivre dans leur ville, à écouter leurs projets, leurs envies, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils avaient envie de faire. Et du coup, ça fait deux ans et demi, il a donné la possibilité finalement à des jeunes de rentrer dans la mairie et de mettre en marche finalement des projets. Et c'est comme ça que ça a finalement commencé, avec en partant en limite de rien, des idées, des envies, un peu de moyens. Et la première année du projet donc a abouti à pointer le doigt finalement sur le besoin d'avoir de récupérer des terres pour permettre à des familles de s'installer dans les villages ou de construire une première maison pour montrer que oui, c'est possible de construire sa maison soi-même en terre. Ça s'était fait avec une petite équipe, ça s'est fait en récupérant à droite à gauche des poteaux électriques qui étaient couchés, des bouts de voies de chemin de fer qui étaient abandonnés, et de démontrer quoi. Et la deuxième année déjà, donc y a un système qui a été proposé, qui a commencé à se mettre en place, c'était aussi de commencer à donner la possibilité aux gens de participer aussi. C'est quelque chose c'est assez démocratique ce qui est en train de se faire, puisque finalement on bosse vachement avec des assemblées de voisins, des juntas vecinales. Donc c'est l'idée de former finalement à l'organisation collective, d'inviter les gens à participer, à prendre la parole. Et petit à petit, au bout d'un an et demi, d'arriver à avoir pour chaque assemblée de voisins, donc soit dans les quartiers de la ville, soit dans les villages, un budget participatif qui est géré finalement par la communauté pour développer des projets. Et donc c'est ce qui s'est mis en place aussi en parallèle de la récupération de terres. Il y a aussi au niveau de l'organisation et du renforcement des capacités d'organisation et de la prise de parole, ce processus qui a été mis en place et qui est assez prometteur, parce que ça, du coup, ça permet aussi aux nouveaux arrivants comme nous dans les campagnes de se mêler aussi aux gens qui étaient là, donc en général des voisins, des travailleurs ruraux, des enfants de travailleurs ruraux, et donc de se rassembler pour discuter et construire ensemble un nouveau village quoi. Et la mairie en plus nous permet d'avoir des moyens pour travailler, tant des moyens, c'est modeste, mais avoir un petit budget participatif et aussi d'avoir accès à l'information, ce qui est aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'information où quand on peut avoir accès à tous les cadastres et à tous les propriétaires et à qui paye pas, ça a été possible grâce à ça, grâce à cette échelle municipale. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un processus assez original, finalement, dans la province. Alors, je ne sais pas en Argentine, mais en tout cas dans la région. Et d'avoir réussi à monter un projet municipal où on municipalise de la terre, où on appuie l'autoconstruction, l'éco-construction, c'était assez innovant. Le fait d'avoir, du coup, ces jeunes qui revenaient, mais qui, comme tu dis, qui avaient milité dans d'autres villes, dans d'autres organisations, ils ramènent avec eux ben, non seulement leurs compétences, mais aussi leur réseau. Et fait que finalement, ça fait un peu effet boule de neige assez rapidement, où Ayacucho commence dans la province en fait, à être reconnue comme la ville de l'autoconstruction. Là, il y a un journal qui est sorti aujourd'hui, un article dans une revue argentine, Ayacucho, la ville de la construction en terre, vers la durabilité. Et du coup, moi j'ai l'impression, là, à prendre un peu de recul, même si c'est difficile en étant dedans, mais que c'est un peu quelque part la naissance d'un mouvement social, puisque finalement ça rassemble des organisations, autant des individus que des organisations, aussi des agrupations politiques, et pour construire, échanger, et aussi construire un nouveau projet de société, enfin, d'aller au-delà de l'Ayacucho, du quartier, de sa maison. Et de le faire surtout, pas seulement d'en parler, mais de le faire, c'est-à-dire de le vivre et de construire, quoi. Et c'est vrai que pour ça, la construction en terre crue, là, ça a l'avantage d'avoir tout ce bagage-là, en fait. C'est pas construire une maison en terre, c'est impossible de le faire seul. Ça amène le travail collectif, l'entraide, parce que c'est pas possible de payer 25 employés, donc... Donc finalement, on arrive dans des systèmes, on récupère des valeurs aussi d'entraide, de solidarité, d'échange. Et en fait, on touche... maintenant, le groupe, on rassemble des gens de 20 à 70 ans qui sont en manque de ça, finalement. Enfin, qui retrouvent dans ce projet des valeurs et des pratiques. Et puis aussi en positif, quoi. Enfin, on y croit, quoi. C'est possible, on le fait. Et ouais, c'est assez chouette de vivre ça ici, ouais.
Voilà, c'était donc le témoignage de Sophie Erwan, motivée en pleine pampa déprimée, que nous remercions pour ses entretiens. Un immense merci également à Jou, qui a réalisé l'interprétation et la traduction. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant le fichier lié sur le blog de l'émission http://blogs.radiocanu.org/luttepaysanne au pluriel. C'était les paysans et les paysannes dans la lutte des classes sur le 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios, en FM et en stéréo. On vous laisse avec un dernier morceau du groupe Narco Tango. Thank you.
Il a un statut, en quelque sorte, de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure. Dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout cela parce que...
d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.